Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Yves Tréhard.
Hier, l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, la fin de vie. Est-ce que le président de la République, ne cherche pas à faire diversion en nous emmenant et en nous conduisant sur des terrains de société, comme on dit aujourd'hui? On se posera la question de savoir aussi si, François-Xavier Bellamy, le candidat pour les européennes du Parti Les Républicains, a un espace vital, un espace électoral entre Madame Maréchal pour Reconquête et puis Jordan Bardella, l'inévitable des sondages actuellement pour le Rassemblement National. Enfin, la guerre est là. La guerre, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle est aux limes de l'Europe. Cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle va peser sur le scrutin des élections européennes qui vont avoir lieu, comme vous le savez, début juin? Bienvenue dans le club du Figaro Politique, le club que vous pouvez suivre, comme vous le savez, tous les lundis sur la TNT, sur le canal 34, et puis sur les chaînes de la boxe dont les numéros m'échappent à chaque fois. Je demande, c'est pour ça, toutes les semaines, qu'il y ait l'unification, comme dans les combats de boxe, vous savez. 468 pour SFR, 345 pour Orange, 904 pour Free et 305 pour Bouygues. C'est parti! Avec Anne de Guigné, grand reporter au Figaro Économie. Bonsoir.
Bonjour,
Anne, que vous pouvez lire, pas seulement dans le Figaro, dans des livres, notamment sur le wokisme en entreprise. C'est l'homme de la droite, de la droite aussi. Hein. Il y a deux droites, il y en a trois même,
peut-être plus.
Paraît-il, ouais. Hein. Emmanuel Galliero, qui est avec nous, grand reporter aussi au service politique du Figaro. C'est sa première, on va l'écouter avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Célestine Gentilhomme, qui est journaliste au Figaro, bonjour, au service politique également. Et puis, vous le connaissez, il arpente du matin au soir tous les studios de télévision, de radio. Il vous éclaire, il vous illumine même. Hein. C'est Frédéric Dabi, patron de l'IFOP. Alors, je parlais de ces sujets-là de société... que le président de la République a voulu à l'agenda. Maintenant, on parle de la fin de vie. Il a accordé une interview dans deux journaux, qui sont La Croix et Libération, soigneusement choisis. Et il y a peu de temps, on faisait entrer l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Frédéric Dabi, ce sont des sujets clivants ou pas ?
Non. Ah. Non, ils ne le sont pas. Sur la fin de vie, je suis frappé par deux choses. Je travaille sur ces sujets depuis très très longtemps. Pas seulement à travers des sondages, où on peut dire qu'un sondage, c'est la prime à l'émotion. Il y a beaucoup eu de faits divers. On parle beaucoup de fin de vie, en gros, depuis 2001. Depuis l'affaire Vincent Humbert, souvenez-vous, ce jeune homme tétraplégique, aveugle et sourd, qui avait supplié Jacques Chirac de pouvoir mettre fin à ses jours. Et il y a eu une litanie de faits divers jusqu'à hier. Hein, Charles Bietri, l'ancien patron des sports de Canal, qui a salué cette avancée. C'est un sujet sur lequel, d'une part, il n'y a quasiment pas de clivage. Je prends comme source une enquête IFOP-JDD réalisée en avril 2023, au lendemain des conclusions de la Convention citoyenne, qui les a rendues il y a presque un an, où, sur le principe d'aide active à mourir, on est à 78% de soutien à gauche, 75% à droite, 83% chez Renaissance, avec un principe global à 72%. Et c'est quand même, je le dis très solennellement, mais je ne vois pas d'autre sujet où il y a un tel décalage entre ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire avoir cette liberté ultime, pouvoir faire ce choix d'un jour peut-être, parce que c'est un sujet qui concerne tous et tout le monde. On n'est pas sur l'IVG, on n'est pas sur le mariage pour tous, où là, il y avait eu des clivages en leur temps, un décalage entre ce que veulent les Français et ce que propose le législateur. C'est en ça qu'on est sur un sujet qui est particulièrement spécial, parce qu'il implique tout le monde. Tout le monde est concerné. Tout le monde n'était pas concerné par la loi Taubira, loin de là, par l'IVG, même par l'abolition de la peine de mort. Je prends des grands sujets sociétaux qui ont scandé des mandats présidentiels. Et l'idée générale, quelle que soit la méthodologie, que ce soit un sondage, que ce soit une enquête qualitative, que ce soit une conférence citoyenne où on va former des citoyens sur le sujet. J'en ai mené une en 2013 où il y a eu contre la loi, contre le changement de loi, Marie de Wenzel, Robert Badinter, pour le changement de loi, Jean-Luc Romero, par exemple, systématiquement, les Français veulent une évolution sur ce principe d'aide active à mourir, sans clivage, y compris à droite, y compris chez les catholiques pratiquants.
Alors, on a vu que sur l'interruption volontaire de grossesse, il n'y avait pas de clivage non plus, enfin, en tous les cas, dans le vote du Parlement. Est-ce que ça veut dire que dans une société divisée, révoltée comme la nôtre, eh bien, finalement, le président de la République a voulu aussi chercher des espaces, des temps de consensus?
Alors, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de clivage, sans doute. On peut faire confiance à Frédéric Déby sur son analyse. Mais, par contre, il y a peut-être une volonté de diversion. Ne serait-ce que dans le calendrier qu'on observe.
Vous voyez la petite bête partout, vous?
Non, mais regardez le calendrier. Il se trouve que ce débat arrivera juste avant les européennes et que Macron est dans une situation politique.
Il va arriver au Parlement, à l'Assemblée nationale, fin mai. Et ça sera après l'été au Sénat. Si
on est à la veille donc, d'une élection importante. Et dans ce climat-là, on voit bien qu'il y a un enjeu politique pour Emmanuel Macron très important. C'est qu'il ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil, sinon peut-être que la fin du macronisme débutera plus tôt que prévu. Donc ça, c'est un vrai enjeu politique.
Et comme vous y allez, la fin du macronisme.
La fin du macronisme, de cette période d'Emmanuel Macron et de ses héritiers, peut-être. Mais là où c'est quand même compliqué, c'est que si on utilise ce thème-là pour des raisons purement électorales, et on ne peut pas mettre en doute peut-être sa volonté aussi de faire avancer la société, mais imaginons que ce soit cette hypothèse, sur des sujets aussi sensibles. Et vous venez de le dire, c'est un sujet non pas clivant, mais qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par cette histoire au moins une fois dans sa vie. Donc on est tous confrontés par ses proches, par ses douleurs, par ses douleurs intimes. Mais c'est un sujet extrêmement complexe. Et on ne peut pas le résumer, d'autant plus dans une société, je crois, qui est de plus en plus difficile à lire, de plus en plus motivée par l'instant. Il faut se méfier, et je pense qu'un politique, il est aussi là pour ça. Il est peut-être aussi là pour rappeler des principes et apaiser les débats.
Alors, on va écouter justement, il y en a d'autres qui pensent aussi qu'il fait diversion.
Malheureusement, je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne. On voit le président de la République qui engage le pays dans un débat infiniment complexe au moment où on devrait pouvoir se concentrer justement sur l'enjeu des 3 mois qui viennent, sur cet enjeu de l'Europe qui est absolument décisif. On voit bien finalement que le président de la République, qui n'a plus la main sur rien, a décidé de se réfugier dans les questions de société, parce que c'est peut-être le dernier endroit où il peut encore faire l'actualité.
On ne peut pas s'empêcher de penser quand même que le président de la République fait un peu diversion en proposant des débats sociétaux, qui sont des débats intéressants et importants, notamment demandés par beaucoup de familles concernées, soit par les soins palliatifs, soit par la fin de vie d'un de leurs membres. Mais honnêtement, aujourd'hui, on attend le président de la République et son gouvernement sur le pouvoir d'achat.
Pourquoi vous dites que c'est une diversion?
Parce que le président de la République et son gouvernement ont tout raté. Les feux sont au rouge pour la sécurité, pour l'immigration, pour l'inflation et le pouvoir d'achat.
Alors, Célestine, diversion?
Diversion, je sais pas, mais c'est peut-être là un peu la stratégie du chef de l'État. C'est des victoires, finalement, à moindre coût. Frédéric le disait, c'est assez consensuel, finalement, autant la question de l'IVG, celle de la fin de vie est plus intime, peut-être. Donc un peu plus compliqué, mais pour lui, c'est un peu un second quinquennat où on se disait, il va rien se passer, ouais. Il va rien réussir à faire, on a une majorité relative, comment il va avancer? Là, pour lui, c'est un moyen de montrer qu'il peut faire passer des réformes, avancer et retrouver un peu le macronisme originel qui lui faisait un peu défaut dans ce second quinquennat où on a reproché beaucoup une droitisation. Donc c'est un peu ce macronisme originel, mais aussi ce progressisme qui parle finalement à son aile gauche, ceux qui étaient là depuis 2017. Donc bien sûr, il y a peut-être une stratégie de diversion, mais c'est surtout qu'il gagne des victoires facilement. Et sur l'IVG, notamment, je me souviens, c'était un terrain qui avait été beaucoup investi par les Insoumis, par Mathilde Panot, la patronne des députés LFI. Et pour lui, il a court-circuité, finalement, la gauche, sur quelque chose de consensuel. Et à la fin, eh ben, il a de réformes dans sa poche.
Ah, non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, finalement, il ne prend pas beaucoup de risques avec ces réformes-là. Parce que, bon, que ça passe ou que ça ne passe pas, ça ne change rien, non?
Oui, puis Frédéric Déby nous a bien introduites. Oui, évidemment, il a tous les sondages, Emmanuel Macron, il sait que les Français sont populaires, enfin, les Français y sont favorables. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le calendrier, parce que dans les deux cas, l'euthanasie, c'était une promesse. Enfin, la promesse de campagne, c'est qu'il y ait un comité de citoyens qui s'est réuni d'ailleurs au printemps 2023, qui a dit qu'il était favorable, puis on a encore attendu des mois. Donc c'est vrai qu'on a du mal à ne pas se dire que là...
C'était une convention citoyenne.
Voilà, la convention citoyenne.
Qui contournait un peu le Parlement. Voilà, c'est ça aussi qui pose un problème politique.
Et la promesse, c'était qu'il y aura une convention citoyenne, elle se déclarera, ensuite il y aura le projet de loi.
Sauf qu'il ne savait pas trop quoi en faire de cette convention
citoyenne. Oui, et donc il a attendu des mois de... Moi, à titre personnel, je regrette cette évolution. Je pense que pour plein de raisons que ce n'est pas une bonne chose. Mais il s'y était engagé, la convention citoyenne avait acté dans ce sens. Et c'est vrai que le décalage du calendrier me fait quand même assez rejoindre Emmanuel sur le terme que arriver pile au moment des européennes, un moment de grande tension,
surtout sur
ce sujet en effet très, très, voilà, où les Français sont tous assez unanimes sur derrière le sujet, où il ne prend pas grand risque, mais je ne pense pas qu'il rassemble le pays pour autant sur de tels sujets. Ah. Peut-être à court terme, il a l'impression d'aller dans le sens global, mais je ne pense pas que...
Alors, Emmanuel, puis Frédéric.
Non, parce qu'on renvoie à l'entretien qui est publié de Jean-Pierre Le Goff ce matin dans le Figaro, qui est très intéressant, parce qu'il pose ce sujet-là au-delà de la politique. Et on voit bien, avec les extraits qu'on a choisis là, on voit bien que ça enflamme. On voit bien les arguments, d'ailleurs, plus ou moins justes des uns et des autres. Mais ça ne devrait pas être le terrain de ce débat, Frédéric. Je pense qu'il faudrait que, justement, un président de la République, président de tous les Français, devrait trouver un consensus et essayer de travailler avec les Français et avec le Parlement pour construire ça.
C'est un peu ce qu'il a fait. Attendez, je me fais l'avocat du diable. Ça fait quand même 2 ans qu'on traite ce sujet.
J'allais le dire aussi.
Et il y a une convention citoyenne, il a mis un temps fou. On lui a reproché d'ailleurs de mettre du temps.
Justement, ce que vous dites, Emmanuel, est parfaitement intéressant. Pour les Français, ce n'est pas un sujet politique. Ce n'est pas un sujet partisan. Racontez-moi comment le vote de cette loi va faire bouger ne serait-ce qu'une ligne aux élections européennes. De la même manière, je ne pense pas une seconde que l'inscription de l'IVG dans la Constitution va changer fondamentalement le rapport de force électoral. Les Français, que je respecte infiniment parce que je vois qu'ils répondent aux questions qu'on leur pose, je vois qu'ils sont beaucoup plus rationnels qu'on le dit, vont voter aux européennes pour sanctionner Macron, pour aider l'Ukraine, pour je ne sais pas pourquoi, mais pour cette question de fin de vie. Par contre, là où je vous suis, c'est vrai qu'on peut être troublé. La Convention citoyenne a rendu son avis en avril 2023. Le projet de loi devait arriver au mois de septembre, puis novembre, il y a eu le projet de loi immigration. D'ailleurs, la critique que beaucoup de Français adressent à Emmanuel Macron, et qu'est-ce que c'est nouveau en termes d'inaction, eh bien, beaucoup ont utilisé cette question du débat sur la fin de vie pour dire, mais en fait, il a peur d'y aller et le « en même temps » qui était un signe d'efficacité est un signe de procrastination. Maintenant, tout sujet sociétal, toute réforme sociétale est perçue par les Français comme une dimension de diversion. J'avais été frappé en mars 2013, au moment des très fortes manifestations contre la loi Taubira, que les pro-mariages pour tous et les contre-mariages pour tous disaient tous la même chose, alors qu'ils n'étaient pas sur le même point. C'était, bon, on en fait trop, passons à autre chose. Les vrais sujets, c'était à l'époque le chômage, le ras-le-bol fiscal. Donc tout président a parfois tendance à s'offrir des victoires faciles. Ce n'est pas si facile, et vous l'avez bien dit, cette question de fin de vie. Mais les Français voient bien les choses. Quand Nicolas Sarkozy met le paquet en 2009 sur la COP 20, la COP 17 ou 15 à Copenhague, on avait eu un effet, non pas Copenhague, mais Stopenhague. Arrêtez de nous parler de Copenhague, parlez plutôt du chômage qui remonte.
Juste pour rebondir à ce que nous disait Frédéric Dabi, qui dit que ça ne bougera pas une voix, peut-être, mais je pense qu'il y a quand même un effet de balancier après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, qui était une nomination quand même avec un coup de balancier très à droite, qu'on a vu son gouvernement, les mots d'ordre, autorité, sécurité, si je résume. Certes, ce ne sont pas des étendards de gauche, comme le disait Frédéric, c'est des sujets assez unanimes dans la société, mais ce sont quand même des sujets progressistes.
Oui, c'est vrai.
Et très clairement, pour le macronisme, qui est au départ plutôt de centre-gauche, je pense que c'est une manière peut-être aussi de donner un petit coup vers la gauche, sans prendre trop de risques, exactement ce que vous disiez, Yves, donc une manière un peu de se remettre du côté du macronisme, sans prendre aucun risque. Et voilà, il essaye un petit peu de rassurer sa majorité.
Le temps tourne, et maintenant on va se pencher sur le cas d'un monsieur qui, pour la deuxième fois d'ailleurs, se présente à l'élection, aux élections européennes, qui tire la liste des Républicains, qui s'appelle M. François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il a, dans un parti qui me paraît bien malade, on ne sait plus ce qu'il pense, on ne sait plus qui gouverne, on ne sait plus qui dirige, est-ce qu'il a un espace entre, d'un côté, un discours très radical, encore hier, pendant un meeting de M. Zemmour et de Mme Maréchal, et puis de l'autre côté, d'un Jordan Bardella qui survole les sondages.
Est-ce qu'il a un espace et surtout, est-ce qu'il a un trou de souris dans lequel il peut se glisser alors. Parce que face à l'ogre Bardella, et je sais que Frédéric aime beaucoup cette expression de l'ogre Bardella, qui attrape tout sur son passage, c'est difficile d'exister forcément, Mais en même temps, on a beaucoup parlé de Marion Maréchal qui pourrait venir grappiller quelques voix chez LR. Finalement, pour l'instant, ça ne se conclut pas franchement, sa campagne ne décolle pas. Donc, François-Xavier Bellamy, il a un atout. L'atout, c'est son bilan, c'est son sérieux. Qui est
pas connu en France aussi.
Oui, c'est
sûr. Le bilan à Bruxelles, enfin non, à Strasbourg.
Évidemment, c'est compliqué.
Évidemment, ouais. C'est toute la complexité. C'est-à-dire, est-ce qu'on gagne une élection européenne sur un bilan? C'est assez compliqué, puisque même nous, journalistes, on a du mal à passionner sur les questions européennes. Donc, je ne suis pas sûre que l'électeur, devant son urne, se dit « Bon, il a fait 15 rapports et posé 48 amendements. » Je ne suis pas sûre. Mais il n'empêche que c'est quand même une offre de sérieux, un travailleur, respecté et qui, en soi, conserve encore son socle électoral, qui, bon, n'est plus très haut, mais qui existe encore dans le débat. Mais Emmanuel confirmera.
Alors, avant d'écouter Emmanuel, on va écouter les uns et les autres qui commentent la campagne de Bellamy.
Les gens de LR votent des choses comme les sanctions auprès de contre les Hongrois et les Polonais. Ils votent la répartition des migrants dans toute l'Europe. Ils votent les traités de libre-échange qui ont détruit l'industrie française et qui vont massacrer les agriculteurs français. Voyez. Alors, Monsieur Bellamy, c'est une personnalité très sympathique, avec du talent, sauf qu'il est pris dans une nasse. Qui s'appelle LR, qui s'appelle le PPE et qui s'appelle l'Alliance avec la gauche.
Je pense que les Républicains n'ont pas d'autre issue que de se scinder en deux. Je crois que ce mouvement politique est aujourd'hui devenu un syndicat d'élus sans incarnation ni projet pour le pays. Et je crois que ça désespère sans doute beaucoup d'électeurs orphelins qui ont pu voter pour Nicolas Sarkozy en 2007, pour François Fillon en 2017 et qui sont aujourd'hui orphelins d'un leader.
C'est ce qu'on appelle clouer le dernier clou dans le cercueil.
Ouais. C'est compliqué. Il faut savoir que Jordan Bardella a démarché François-Xavier Bellamy.
Ouais.
Et que François-Xavier Bellamy a décliné pour le rallier. Il a décliné pour des raisons, c'est un argument politique qu'il défend. Il prône une espèce de constance, une ligne et la volonté de reconstruire la droite. Mmh. Alors, on ne va pas se mentir, la situation est très compliquée et Frédéric il va sans doute nous éclairer sur ces européennes qui, depuis très longtemps, pour la droite, ce n'est plus trop... Un espoir de victoire. Mmh. Et d'ailleurs, on a vu...
Pour Bardella.
Oui, pour Bardella, mais pas pour...
Il n'est pas à droite, Bardella.
Il est à droite radicale, mais ce n'est pas la droite républicaine, la droite LR. Alors, cette droite LR, elle essaye de résister, d'exister. On connaît, on ne va pas faire la liste de toutes les difficultés depuis la présidentielle. 4,78, l'objectif pour LR aujourd'hui, pour être honnête, c'est d'arriver au moins à 8, c'est-à-dire au score de 2019. Mmh. Et s'il se passe quelque chose de plus, ce sera un gain, ce sera une victoire. Et ce sera une victoire pour Bellamy qui aura su, quand même, malgré toutes les difficultés de la droite, et malgré ses propres difficultés à lui, parce que aujourd'hui, on est face à un candidat qui s'est construit pendant 5 ans, qui a effectivement un bilan, qui est reconnu par tout le monde. D'ailleurs, c'est assez marrant, hein, en avis politique. Tous ceux, mais y compris à gauche, qui ont travaillé avec ou approché François-Xavier, reconnaissent son sérieux et reconnaissent sa façon d'aborder le débat. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'invective, il pose les sujets, il se démarque très clairement, comme il vient de le faire au PPE, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, et pour être plus objectif et plus surtout positif, je pense qu'il a quand même un certain nombre d'atouts.
À faire valoir. Frédéric,
oui,
alors on en est où ?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Emmanuel Galliero. C'est vrai que sur le papier, ça reste compliqué. Hein. C'est l'histoire de la droite depuis même la défaite de 2012 et surtout accélérée par 2017. Il a un problème d'espace politique. Ce qui a fait très mal à Valérie Pécresse en 2022 et même à Bellamy en 2019, c'est des électeurs de droite qui, au final, choisissent la liste, à l'époque c'était La République En Marche, et d'autres qui, pour empêcher qu'En Marche soit un niveau trop élevé, avaient voté pour Jordan Bardella. Et on peut rajouter un troisième ingrédient, c'est la liste Reconquête, qui a quand même une source électorale qui est composée d'électeurs LR radicalisés, si je puis dire. Donc les difficultés sont là. Mais effectivement, j'ai aussi envie de voir les atouts. Pour l'instant, la liste Bellamy est devant celle de Marion Maréchal, mais entre les deux, il y aura, si je puis dire, un mort politique.
Ah oui.
Le 9 juin au soir, on n'imagine pas les deux faire des bons scores, ou bien ça serait une chute très forte de Jordan Bardella qu'on a du mal à concevoir. Mais les atouts, effectivement, il est sortant, il est plus connu des Français qu'en 2019, et c'est une élection où traditionnellement c'était un vote d'étiquette partisane. Je pense que l'incarnation va plus compter que par le passé. Et puis, ce qui lui avait fait très mal en 2019, c'est-à-dire ses électeurs de droite modérés choisissant la liste La République en marche, la liste Nathalie Loiseau, on a plus de mal à concevoir compte tenu de... C'était un vote Macron, c'était un vote après le mouvement des Gilets jaunes où Emmanuel Macron incarnait l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, l'émetteur Macron est quand même très abîmé, y compris pour ses électeurs de droite modérée. Mais c'est vrai qu'il doit mener une bataille sur trois fronts. Et puis, quelle Europe va-t-il décrire ? Il va-t-il être plutôt critique pour conserver cet électorat de droite qui peut aller au Rassemblement national ou doit-il être davantage sur un discours pro-européen pour garder son électorat tenté par le macronisme ? C'est en ça que c'est une bataille sur deux ou trois fronts en termes d'espace, en termes d'incarnation et en termes de positionnement.
Anne, une question. Dites-moi un peu, aux Républicains, on pense quoi de l'Europe ?
Oui, bah c'est une bonne question, Yves.
C'est son boulot.
Mais on pense quelque chose, et c'est ça qui est intéressant,
ah
c'est
bon
que les lignes bougent de tous les côtés. Et aussi, le problème, c'est surtout qu'en France, on ne s'intéresse pas assez à l'Europe. Et en effet, quand on regarde ce qu'a fait François-Xavier Bellamy, il a vraiment bossé et il a une pensée assez précise. Et ce qui est intéressant, c'est que je lisais aussi l'interview de son directeur de campagne, Otmane Nasrou, ce week-end. Et il parle, et ça m'a frappé, d'intérêt, de défense de l'intérêt général, de l'intérêt de la France en Europe. Et ça, on n'ose plus en parler, c'est un thème. Donc je pense que ça va être leur ligne de dire qu'ils ne sont pas anti-européens, ils sont pour une Europe, nous on peut défendre l'intérêt de la France. Et ce qui n'est pas la ligne RN, c'est encore autre chose. Et je pense que là-dessus, il y a un créneau assez important. Parce qu'en France, il y a eu très longtemps une espèce de pudeur de dire, si on est en Europe, on défend l'Europe, on ne parle pas de la France. Mais non, les deux, on peut défendre les deux, et notamment dans les traités de libre-échange. Et il a bossé là-dessus, Bellamy, de façon crédible. Et moi, je pense... Et évidemment, c'est extrêmement difficile, mais je rejoins Frédéric Dabi, je pense à toute une partie de la droite qui ne se retrouve plus dans Macron et qui, s'il fait une bonne campagne, il peut être meilleur qu'il y a 5 ans.
Il peut récupérer l'électorat qui est parti momentanément chez
Macron. La question, c'est plutôt sa place entre Le Pen et Macron, je pense plutôt.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Frédéric là-dessus. Parce que moi, j'avais bien suivi la campagne de Bellamy en 2019, qui était une très bonne campagne,
oui, c'est vrai.
Contrairement
très bonne.
À ce qu'on a dit.
Dans nos indicateurs du Rolling, c'était très souvent celui qui arrivait en tête pour la meilleure campagne.
Voilà, exactement. C'est une excellente.
Il a été crédité à un moment de 14%.
Ouais, 13 à 14. Ouais.
Très dynamique et au fil de la campagne, mais c'était une campagne de meeting. Bellamy, à ce moment-là, avait un vrai problème de notoriété. C'était évident. Les gens le découvraient dans les meetings et ils disaient, mais c'est qui ce Bellamy ? Il est incroyable. Et il sortait des meetings, mais vraiment enthousiaste. C'était incroyable. Le résultat est tombé, 8-48, je crois, de mémoire.
Décevant par rapport au sondage.
C'est décevant, c'est pas une performance et ça correspond aux projections qui avaient été faites avant qu'il entre dans le combat. Là, mon calcul est peut-être stupide, mais je me dis que les gens qui ont voté pour lui en 2019, déjà dans un contexte où c'était pas si simple, ils l'ont vu au travail pendant 5 ans. Il vient avec un bilan, il est plus solide, prêt au combat. Il demande d'ailleurs des combats avec Bardella, qui a refusé. Il y a un débat fin de semaine, le premier débat de la campagne.
Oui, sur Public Sénat, jeudi soir.
Et Bardella n'ira pas.
Ouais.
Il a demandé... peut-être qu'il a raison de le faire.
Non, mais... il pense que ce sont des deuxièmes couteaux qui seront là.
Voilà, c'est ça. Mais Bellamy, il veut le choc. Ouais. Parce qu'il y a aussi un de ses atouts, c'est qu'il est quand même solide sur ces questions. Ouais. C'est des questions complexes, les questions européennes. Il faut vraiment travailler. Pour avoir un peu suivi, c'est pas du tout évident.
Ça veut dire que les autres ne travaillent pas, quoi.
Ça veut dire que pendant longtemps, on n'a pas beaucoup travaillé, je pense aussi. Alors, ouais.
L'absentéisme de Bardella est bien documenté. Entre les deux, un était présent, l'autre était absent.
C'est en ça qu'on est sur une campagne assez originale. Hein. Tous les invariants classiques d'une élection européenne peuvent être battus en brèche. Une élection où on ne vote pas, seule élection nationale du quinquennat, ça va peut-être voter. Une élection qui n'a pas d'impact sur le cycle électoral, c'est la seule élection nationale, sauf bien sûr dissolution, ça peut jouer fortement pour la présidentielle. Et puis, une élection où il y a, comme vous avez dit, énormément de personnes sortantes. Et ça peut être gênant pour Bardella, ça se voit pas du tout dans les enquêtes d'attention de vote, si, comme a dit Florence Portelli, on va voir que c'est Bardet pas là, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait grand-chose. C'est Florence Portelli.
La mère de Taverny.
Voilà, il n'y a pas de... Et c'était sur Public Sénat. Il n'y a pas de copyright, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sortants. Manon Aubry a beaucoup travaillé, Raphaël Glucksmann a un bilan international. Ça peut peu changé la nature de la campagne.
Les débats sont très
intéressants, d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, tous les deux ont été rentrés dans le baromètre IFOP Fiduciel pour Match et Sud Radio. Ils ont une popularité à peu près équivalente, connue par 2 Français sur 3 et avec 25-30% de popularité, ce qui n'est pas rien par rapport à 2019.
Célestine, sur quel... de quoi doit-il parler ? On voit bien que Zemmour et Maréchal sont sur l'islam, l'islamisme et tout ça. Bardella, il parle beaucoup de, quand même de pouvoir d'achat, d'économie finalement. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire alors ?
C'est difficile pour lui, parce que ce qui me taraude un peu, Jordan Bardella en est l'exemple parfait. Marion Maréchal aussi, il a esquissé hier, c'est qu'on est sur un scrutin voulu, en tout cas par le RN, mais un peu par le camp présidentiel aussi, ultra-nationalisé. C'est-à-dire que c'est les midterms, comme le répètent souvent les élections de mi-mandat, c'est le vote sanction contre Emmanuel Macron. Et là, effectivement, on a un peu de mal à voir où François-Xavier Bellamy pourrait tirer son épingle du jeu.
Ouais.
Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, de sujets concernant, effectivement, on parle pas forcément toujours d'Europe. C'est pas ce qui... J'ai quand même le sentiment que c'est quand même difficile pour quelqu'un comme lui de pouvoir incarner, et ça me fait rire parce que je pense à Éric Ciotti qui disait que François-Xavier Bellamy devait incarner le vote sanction à Emmanuel Macron. C'est quand même compliqué quand on est sondé à 7,5% d'incarner celui qui va mettre une claque à Emmanuel Macron.
Ouais.
Exactement. Ouais. Donc c'est compliqué aussi sur le plan national. Effectivement, il a un bilan que tout le monde salue. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faudra voir aussi les débats. Peut-être qu'il parviendra par son sérieux, par son travail.
Les débats peuvent être importants, oui, c'est vrai.
Je pense qu'il y a une fenêtre aussi pour Bellamy, c'est que là, on est dans un contexte très tendu avec Bardella et tout ça. Le vote contestataire, le vote Bardella, le vote Maréchal, sont des votes contestataires, des votes de colère, dans un contexte très tendu quand même, parce qu'on ne parle pas de ça, mais le bilan d'Emmanuel Macron va être terrible quand on voit les actualités, les difficultés sur tous les fronts. Hein, je parle du logement, de la santé. Bon, et c'est pour ça que son gain politique, pour revenir au sujet d'avant, c'était la diversion, c'était aussi d'éviter ça, d'éviter ce
débat. Je pense qu'il l'aurait vu.
Bon, enfin, bref, qu'importe. Mais la question de Bellamy, c'est ça là, c'est qu'il peut peut-être trouver une fenêtre. Au moment où ce vote contestataire, il y a toujours un vote contestataire, j'ai beaucoup suivi le RN de 2013 à 2017, un parti qui était tout le temps en dynamique pendant toutes ces élections, et c'est vrai que parfois, au moment juste à la veille d'un scrutin, le score qui était donné très très haut s'effondrait quand même, s'affaissait un petit peu au dernier moment. Je ne sais pas si lui peut profiter de ça ou pas, c'est une question que je me pose.
Non, mais c'est...
Oui.
Non, c'est une vraie question, le RN fait la course en tête. Alors, il est dans la posture de 2014. 2014, le rolling IFOP Fiduciel l'avait donné en tête pendant toute la campagne. 2019, ça a été un mano à mano avec la liste La République en Marche. Là, pour l'instant, c'est quand même absolument écrasant. Mon confrère Elab a donné hier 12, plutôt Ipsos dans le Monde, a donné 13 points d'avance pour la liste Bardella. Mais c'est vrai que François-Xavier Bellamy peut jouer la distinction, peut jouer la différence. Bah, vous m'aviez interrogé en 2019 et j'avais dit qu'il y avait un côté un peu Monsieur Smith au Sénat de Capra. C'est-à-dire un côté très frais, un côté parler vrai, quelqu'un qui va aborder les vrais sujets. Il peut créer la distinction. Et puis, sans doute, n'oublions pas, les Français ont été extrêmement frustrés de cette non-campagne présidentielle. Oui. Je suis ravi de voir que le niveau d'intérêt pour l'élection est en gros 8 à 10 points au-dessus que 2019. Donc, il peut y avoir une surprise assez intéressante. Et l'électorat de Bardella, un électorat plutôt âgé, c'est un électorat qui vote. De Bardella, de Bellamy, pardon. Oui. C'est un électorat qui vote. Donc, on peut... ça peut être le scénario inverse pour lui qu'en 2019.
D'accord. Anne a un mot ? Non ?
Non, mais moi, je pense que tout est assez ouvert.
Tout est assez ouvert. Alors, on va voir s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine, une guerre qui prend un sale tour, si je puis dire, et elle va peser sur cette élection européenne. C'est le président de la République, d'ailleurs, qui a mis, si vous me permettez l'expression, une pièce dans la machine, parce qu'il a parlé de troupes au sol. Il a dit qu'il fallait absolument, il a passé un accord avec Zelensky, dans le paysage politique français, tout le monde vis-à-vis de Poutine n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, n'a pas les mêmes rapports. Il y a, on le sait, en France, toujours une fascination pour la Russie. Donc ça peut être l'objet de certains débats assez explosifs. Célestine, est-ce que le président de la République d'ailleurs, va organiser demain et après-demain à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, un débat sur l'accord justement qui a été passé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça, à votre avis, ça va être chaud ?
Demain, est-ce que ça va être chaud ? En tout cas, ça va. Les pupitres vont peut-être pas claquer, mais en tout cas, ça va être assez compliqué parce que c'est un débat qui aura lieu sur l'accord de sécurité. Ouais. Donc, c'est un accord de sécurité, pardon, qui a été signé en février à Kiev. Vous le disiez. Il y a eu entre-temps quand même quelques sorties assez controversées du chef de l'État sur la question de l'envoi de troupes au sol.
Ouais.
Le camp présidentiel veut en faire un moment de vérité à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire, et c'est un peu...
Il y a des arrière-pensées là aussi. Hein.
Il y a forcément des arrière-pensées. On a envie un peu de tendre un piège aux oppositions, tendre un piège au Rassemblement national, parce que c'est quand même un angle d'attaque assez récurrent depuis le début de la campagne sur des incointances prétendues avec la Russie, mais aussi LFI, qui votera peut-être pas, qui devrait s'abstenir plutôt que voter contre. Donc c'est un moment de vérité parce que c'est totalement pollué par les déclarations du chef de l'État sur la question de l'envoi de troupes au sol, sur un soutien indéfectible et jusqu'au bout, cette question d'ambiguïté stratégique. Donc ce débat qui devait porter sur un accord de sécurité qui est assez compliqué, mais en tout cas ne devait pas porter pour oui ou non la guerre en Ukraine, on la soutient ou pas, et bien là, c'est en train de dévier par ces sorties du chef de l'État.
Là-dessus.
Exactement.
On va écouter ce que disent les uns et les autres.
En tout cas, moi, j'ai fait savoir que nous étions en faveur sur le principe d'un accord bilatéral avec l'Ukraine, mais qu'il fallait encore une fois placer des lignes rouges. Or, le président de la République ne semble pas décidé à placer des lignes rouges. Moi, j'ai évoqué, et j'ai eu l'occasion dans le débat cette semaine d'évoquer une ligne rouge qui m'apparaît fondamentale, qui est celle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
La trahison, c'est le fait de servir les intérêts de la Russie avant les intérêts de la France. Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. Jordan Bardella, au lendemain, à la sortie des échanges de la rencontre de Saint-Denis la semaine dernière, dit qu'il faut fixer des lignes rouges à la France. Mm. Ça n'est, c'est à Vladimir Poutine qu'il faut fixer des lignes rouges.
Et depuis le début de cette histoire, depuis le début de la grande confrontation lancée par Vladimir Poutine contre nos démocraties, eh bien, Monsieur Bardella et tous ses alliés à l'échelle européenne agissent au service de Vladimir Poutine, donc d'une tyrannie étrangère. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des patriotes de pacotille.
Alors, c'est un tir groupé, hein, Anne contre Bardella. En fait, c'est aussi montrer que, et c'était le sens aussi du meeting de la majorité présidentielle samedi, de montrer que, avec d'ailleurs des comparaisons absolument hallucinantes.
Oui, la comparaison avec Munich, qui est ouais. Un peu lourdingue de mois en mois.
Daladier et Chamberlain, oui.
Surtout, rappelons-nous, prenant un an de recul, Emmanuel Macron avait été le champion dans l'Occident de dire « n'humilions pas Vladimir Poutine ». À l'époque, tous ses alliés avaient hurlé en disant « tu es gentil, mais là, c'est l'Ukraine avant tout qu'il faut défendre, et on verra après la Russie ». Et aujourd'hui, il faut quand même se rappeler ça, et aujourd'hui, Emmanuel Macron, au contraire, va très fort en disant « peut-être envoyer des troupes au sol ». De nouveau, tous les alliés disent « attends, calme-toi ». Mais avant, les autres États européens lui reprochaient d'être presque trop amical avec la Russie. Donc c'est un petit peu gros de maintenant devenir le parangon du chef d'État le plus proche de l'Ukraine. Non, il y a une ligne, évidemment, la France défend l'Ukraine, mais on voit quand même derrière, en effet, les ficelles politiques, ce qui n'empêche que l'histoire du RN avec la Russie est évidemment très complexe. Il y a ces histoires de prêts bancaires, de positions, de vote au Parlement européen. Mais là, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a très très bien gagné en 2022 grâce à la guerre en Ukraine. Il y a eu vraiment un réflexe très fort. Voilà, le chef de l'État, on ne va pas changer de chef des armées. Je pense qu'il est un peu en train d'essayer de rejouer ça pour les européennes. Mais il faut qu'il fasse attention. On n'est plus dans le même contexte. Et puis surtout, il faut qu'il fasse très attention de ne pas faire ce qu'ont fait pas mal de fois les Américains, d'aller s'amuser à l'extérieur pour régler des problèmes intérieurs. Et là, c'est dramatique.
Il prend un risque, le président de la République, là, avec ce sujet ?
Pas complètement. Le risque, c'est évidemment de ne pas être suivi par les Français sur l'envoi de troupes au sol, hein. On a réalisé une enquête.
On n'en est pas là. Hein.
Non, bien sûr, mais en plus, il ne l'a pas dit, il a mis toutes les options sur la table, mais on a testé le principe d'envoi de troupes sous coalition européenne, on a à peine un quart des Français favorables. Ça me rappelle ce qu'on mesurait en 2013 avec François Hollande et son projet avec Barack Obama d'intervenir en Syrie, qui, entre parenthèses, est-ce qu'on n'aurait pas évité 2015-2016 si finalement Barack Obama avait suivi l'intention de François Hollande. Il y a quand même un un risque politique parce qu'il n'est pas suivi par les Français, mais il y a quand même un élément de mobilisation du camp macronien. Son électorat du premier tour, vous l'avez bien dit, hein, il y a eu un effet drapeau qui l'a quand même aidé, mais c'est quand même un électorat pro-européen qui a tout de suite, qui a bien compris ce qui se passe, ce qui est en jeu dans cette guerre. D'ailleurs, toute l'opinion publique l'a comprise. Hein. La cote de popularité de Vladimir Poutine, c'est 10% de personnes qui ont une bonne opinion de lui. Il y a un décalage, entre parenthèses, avec Twitter ou les réseaux sociaux, où ça semble beaucoup plus équilibré que cela. La question du conflit a été extrêmement bien comprise. Hein. C'est vraiment l'idée que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais on sent qu'on est sur un point de bascule. Il y avait une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès il y a une dizaine de jours, moins 15 points par rapport à il y a un an sur l'envoi d'armes à l'Ukraine. C'est du 50-50. C'est du 50-50. L'aide, les sanctions financières, moins 12 points. On est passé de 75 à 62. Et puis, il y a aussi un autre élément. Il y a la dimension budgétaire. Quand les Français entendent le lundi, ou le dimanche plutôt, Bruno Le Maire parler, peut-être à juste titre, des 10 milliards d'euros d'économie, oui. Et ils apprennent quelques jours après, c'est pas les mêmes lignes, mais tout le monde met ça dans un sac qui est le sac du budget de la France, des 3 milliards d'euros pour l'Ukraine. Tout ça fait tanguer l'opinion publique, qui est quand même, je dirais, assez homogène et assez clair sur sa vision et sa compréhension du conflit, mais très clairement, on sent qu'on est peut-être à l'approche à la veille d'un point de bascule.
Emmanuel, on est parti dans une guerre qui, de manière, va perturber la vie politique française.
Je vais un peu me répéter par rapport à l'autre sujet. Il y a manifestement une instrumentalisation avec un sujet extrêmement grave. Là, on parle quand même de potentielle troisième guerre mondiale et d'usage de l'arme nucléaire. Il faut quand même voir de quoi on parle. Qu'un président de la République, en fonction, pose ce sujet-là comme une hypothèse de travail, alors que la France est le 16e, je crois que c'est un chiffre qui va être donné à l'Assemblée demain, 16e contributeur de l'aide à l'Ukraine, 16e.
Oui, il y a des débats là-dessus. C'est les Allemands qui font le ranking.
Alors ça dépend si on prend que l'aide militaire, si on y ajoute l'aide humanitaire.
Le ministère des Armées.
Bon, qui a été livré, ce qui n'a pas été livré, enfin bon.
Sur l'histoire des obus aussi, vous avez vu cette production d'obus, c'est-à-dire que l'Europe promet des obus, 800 000 je crois, et elle ne va pas être en mesure de les fournir, elle va être obligée de les acheter hors de l'Union européenne. Donc on a l'impression quand même que Emmanuel Macron utilise ce thème-là sans mesurer à la fois la portée, donc peut-être qu'il en retire les bénéfices immédiats politiques de resserrement, mais s'il resserre son socle politique sur des slogans pareils, c'est pas très rassurant dans le contexte actuel, moi je trouve. Et donc la droite, par rapport à ça, ils observent. La position d'ailleurs de la plupart des formations politiques, personne n'est pour l'abandon de l'Ukraine. Tout le monde est d'accord pour soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. C'est le pays agressé, mais la question de la co-belligérance est posée. C'est-à-dire, hors de question de mettre un pied dans quelque chose que nous ne maîtriserions pas. C'est trop dangereux. Donc, moi, je trouve que le contexte est là aussi très, très inquiétant et montre que, voilà, Emmanuel Macron essaye de se raccrocher à beaucoup de sujets pour, une fois de plus, faire diversion et éviter d'être confronté à son propre bilan.
Quelle conclusion. Nous allons évoquer maintenant vos coups de cœur et vos coups de griffe. Alors Célestine, on va commencer par vous. On va commencer par le coup de griffe quand même.
Ah, le coup de griffe. Mon coup de griffe, c'est sur l'explosion en plein vol de l'Alliance Rurale, qui est la liste montée par Willy Schren, le patron des chasseurs, qui a jamais vraiment décollé dans les sondages.
C'est vrai.
En passant, c'était souvent sondé à 1% au maximum. Mais il se trouve que cette semaine, Willy Schren a annoncé que c'était Jean Lassalle qui allait prendre la première place, et lui en troisième position automatiquement. Ce qui s'est fait visiblement sans concertation. Puisque cinq colistiers, dont l'ancien rugbyman Louis Picamol, pour les amateurs de rugby, ont claqué la porte, tout simplement, en dénonçant des deals en catimini. Alors c'est un peu dommageable, parce que Willy Schren, qui avait quand même pris le risque de se lancer dans une aventure politique en ayant à côté la casquette de patron des chasseurs, il risque quand même de se prendre des coups sur les doigts, au moins chez les chasseurs, parce que on voit pas trop d'un bon œil ce patron de la chasse fricoter avec la politique. Et là, je pense que l'aventure est terminée. Et je suis pas sûre que ça aille jusqu'au bout.
Et en fait, il y avait un peu du Macron derrière tout ça, non?
Oui, il y avait...
Pour gêner les écologistes.
Ils s'entendent bien avec Macron.
Willy Schren avait apporté son soutien à Emmanuel Macron, comme le font souvent les patrons de fédération. Mais il était surtout entouré de Thierry Coste, un conseiller pro-chasse rurale, qui... susurre à l'oreille des présidents si on l'écoute. Donc, c'est vrai que c'était pas très net, mais Thierry Coste a lui aussi claqué la porte, d'ailleurs. Donc,
Et l'homme des Pyrénées est un ancien MoDem, il faut le dire.
Hein. Oui, donc ça pose la question de la ligne.
Alors, et le coup de cœur, alors ?
Et mon coup de cœur, c'est un peu rétro, mais le 14 mars, il y a un grand colloque pour le 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou, auquel assistera notamment et interviendra François Hollande. Donc je trouve ça quand même plutôt bien de mettre en lumière le bilan d'un président qui a souffert d'être dans l'ombre du général de Gaulle, dont l'héritage est un peu exhumé en ce moment. On le voit sur ce qu'il a fait dans l'industrie, mais aussi dans son phrasé. Combien de fois on a entendu le « arrêter d'emmerder les Français » et celui qu'on pourrait croire un peu ringard, parce que c'était un normalien lettré, fils d'instituteur.
Il avait plein de qualités, il fumait, il aimait la bagnole.
Oui, mais c'est un peu les images en noir et blanc. C'est-à-dire, c'est pas celui qui incarne le plus la modernité.
C'est une jeunesse, là, que vous évoquez. Anne, non, mais on parle souvent du bilan, effectivement. On dit souvent, c'était les 30 Glorieuses, la fin des 30 Glorieuses, l'industrie, le Concorde, tout ça. Est-ce que ce bilan, il est à sa juste valeur ? Estimé à sa juste valeur ?
Sans doute non, parce qu'il y a une espèce de... Il est entre De Gaulle et Giscard, deux figures... figure très forte, et lui était peut-être...
Ah, lui aussi, il a une figure très
forte.
Moi, je l'ai connu Premier ministre.
Non, mais il était extrêmement brillant.
C'est lui qui nous sort de mai 68.
Non, mais il est extrêmement brillant, un bilan très bon, mais peut-être qu'il a moins marqué que les deux autres.
Il est mort...
Et puis, surtout,
c'est le drame de
vous rappelez la conférence de presse, il y a cette histoire de cette femme
Gabrielle Russier.
Et il répond par le poème d'Éluard. Hein. Il y a quand même une vision de la politique, c'est magnifique quand même. Donc, je pense qu'on est tous un peu nostalgiques.
Et puis, si je mets ma casquette de sondeur, dans le baromètre des indices de popularité IFOP JDD, qui a été créé en 1958, c'est le seul président qui a été systématiquement eu plus de scores de satisfaits que de mécontents, parce que De Gaulle, à un moment, a été sur un 46% de satisfaits, 46% de mécontents, au moment de la grande grève des mineurs en octobre ou novembre 64, il a été un moment... pas impopulaire, mais sur un point de bascule.
D'accord.
Ça a été l'homme politique, le président français le plus populaire de la 5e République.
Bah, Célestine, vous avez raison.
On lui rend
super
justice.
Choix.
Et à ce colloque, il y aura sans doute Bernard Heisenberg, qui est un grand banquier, qui était banquier chez Rothschild, ma mémoire est bonne.
C'était un banquier.
Et qui était un ami très intime et très proche de Georges Pompidou. Il y aura peut-être aussi son fils, qui est un fils adopté, comme
exactement.
Chacun ne le savait pas au début.
Coup de cœur.
Ouais, oui.
La semaine dernière, j'étais à Bucarest, au congrès du PPE.
Quelle belle ville.
Et donc il y avait deux choses intéressantes. Coup de griffe, c'est pas le mien, c'est celui de Tajani, l'Italien de Forza Italia, qui a pris la parole à la fin du congrès et qui a attaqué les autorités françaises sur l'histoire de la croix sur le tract des JO.
Non, c'est pas un tract, à l'origine c'était une affiche des Jeux Olympiques.
Et donc il a clairement pris la parole. Il a pris la parole en français. Et il s'est tourné vers la délégation française pour dire « Attention, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est impossible, vous ne pouvez pas nier vos traditions, nier votre culture, c'est pas possible, les juifs et les musulmans ne l'auraient pas fait, et ce n'est pas en niant ce qu'on est qu'on se fait respecter par les autres en Europe. » Donc il dit ça très très fortement. Et là où c'est intéressant qu'il y a une double lecture, c'est qu'en fait ce petit geste qu'il fait vers la France, dans ce contexte de la politique européenne très complexe, difficile, il faudrait deux émissions pour l'expliquer, tout se joue de manière subliminale. C'est-à-dire qu'on dit des choses sans vraiment les dire. Cet Italien ne pouvait pas dire ouvertement ce qu'il pensait de von der Leyen. En revanche, ce geste qu'il fait vers la France est un message assez clair. Et Bellamy, d'ailleurs, le considère comme un allié. Oui. Donc ça, c'est le petit coup de griffe de...
Le comité olympique tolère les signes religieux sur les affiches
Alors, je ne sais pas.
Non, mais ça a été la défense de l'organisation. Il y a un article de la charte qui dit qu'il ne faut pas le moindre signe religieux, pas de drapeau. Et c'est vrai qu'au-delà de la polémique, quand on voit les affiches faites passer, mais qui étaient beaucoup moins, j'ai envie de dire, beaucoup moins diverses, elles étaient beaucoup plus simples. On ne voit jamais, y compris en 1936, on ne voit pas le drapeau à la croix gammée, on ne voit jamais le drapeau. Et on ne voit pas, de signes religieux. Mais ça fait partie de nos polémiques traditionnelles.
Coup de cœur.
Et le coup de cœur, donc, c'est toujours ce vote qui est intéressant, von der Leyen, qui a été mise sur orbite au Congrès.
vu de la France, on voit l'investiture de la commissaire, la présidente de la Commission européenne, qui est candidate pour un nouveau mandat.
Oui.
En réalité, elle n'obtient pas les scores qu'elle pouvait imaginer, c'est-à-dire qu'elle est soutenue seulement à 80%, alors qu'elle est la seule candidate. Et donc, pour François-Xavier Bellamy, c'est une confirmation. C'est lui qui disait avant, attention, guettez, parce que ce qui se passe en coulisses au PPE, c'est que des gens se posent des questions sur von der Leyen. Et on attendait de voir, effectivement, si ce qu'il disait allait se vérifier. Et ça s'est vérifié par ce vote, qui montre que von der Leyen était très bousculée. Et d'ailleurs, Thierry Breton, Renaissance, a rebondi immédiatement en disant « Tiens, il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur cette candidature. »
Thierry Breton, il a une chance ? Il pourrait ?
Je pense compliqué.
Il en rêve la nuit, non ?
Sans aucun doute, sans aucun doute, ça on peut lui faire confiance. Ouais. Mais je ne pense pas, il est quand même très, très clivant. Ouais, je ne pense pas, je ne vois pas. Ouais.
Non, et puis ce ne sera pas possible parce qu'en fait, le parti qui va gagner, bon, sauf résultat, mais si le PPE se confirme une fois de plus, c'est un élu sorti de ce parti, arrivé premier, qui devra être choisi par le Conseil, où, enfin, ça se fera après les élections de toute façon. Mais ça veut dire que von der Leyen, commissaire européen, ce n'est pas encore gagné. Et c'est ça la stratégie de Bellamy, qui est compliquée à expliquer dans le débat français. Mais c'est une vraie stratégie d'opposition.
Le PPE qui devrait... qui part favori dans cette élection ?
Oui.
Au niveau continental.
Ils ont 177 élus, et a priori, tous les sondages...
Oui, plutôt.
Il n'y a pas trop
avec
de risques.
Peut-être une érosion par rapport à 2019, sans doute. Pas un effondrement. Pas
avec la poussée des partis
extrêmes.
Anne, coup de griffe.
Mon coup de griffe, c'est l'occasion de revenir à mes occupations quotidiennes sur les finances publiques. Ah. C'était les déclarations de Bruno Le Maire dans Le Monde, qui dit voilà, l'État n'est pas une pompe à fric. Et ce qui m'a un peu semblé invraisemblable, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même notre ministre des Finances depuis 7 ans, qu'il découvre tout d'un coup l'étendue des désastres des finances publiques françaises et que vraiment... Il va falloir vraiment faire des économies parce que là, on est vraiment très mal parti. Bon, honnêtement, en 3 mois, les choses n'ont pas changé radicalement. Il y a eu une question de rentrée fiscale qui ont été un peu plus dures que prévues. Et ça, c'est vrai qu'en fait, à Bercy... tout d'un coup, les rentrées, notamment l'IS, tout d'un coup, rentrent, et à quelques milliards près, vous avez votre prévision, et ça peut se réajuster à quelques milliards près. Donc, vous pouvez avoir une mauvaise surprise sur les rentrées fiscales, mais pas de quoi changer de A à Z votre vision. Et là, j'ai trouvé ça un petit peu théâtral, tout d'un coup, ce virage sur quasiment l'austérité, alors qu'on le sait bien depuis des années, qu'on dépense beaucoup, beaucoup trop, et qu'il faut faire quelque chose.
Alors que si l'activité économique ralentit, il y aura moins de rentrées fiscales aussi.
Mais bah oui, les rentrées fiscales, ce n'est pas prêt pour s'améliorer. Déjà fin 2023, donc c'était plus faible que prévu. Ouais. Et 2024, ça s'annonce aussi qu'un gars.
Ouais. Il va rester à Bercy, le maire, lui. Oui.
Je n'en sais rien, mais en principe, oui. C'est le premier des ministres.
Hein. Ouais, ouais. Il est là pour encore 3 ans, donc il aura fait 10 ans.
Mais là, il a le plus dur devant lui, parce qu'il va vraiment falloir faire des économies. Et là, il n'y a pas un sujet qui ne crée pas... On reviendra tous pour le coup de sujets non consensuels. Là, on va avoir des sujets...
Ça va bousculer dans les territoires, d'ailleurs.
Ce sera loin de nos sujets de société.
Vous voulez dire dans les provinces.
Oui. dans les départements.
Moi, j'aimais bien les débats qui revenaient sur le cumul des mandats. Je pense que les députés actuel souffre beaucoup d'être trop loin des exécutifs locaux, et c'est le parti Horizon qui amène ce débat, et ça me semble très sain. Je pense que la majorité notamment était très faible, des nouveaux députés qui n'étaient pas élus locaux, pas dans les exécutifs. Je pense que ça explique beaucoup des difficultés de la politique actuelle, et je trouve ça très bien que le débat revienne.
Alors l'idée, c'est non pas de revenir aux députés maires ou aux sénateurs maires,
maire adjoint, ou vice-président. C'est déjà mieux. Et peut-être, en effet, que c'est bien de briser ces baronies qu'il y avait autrefois. Vous aviez des types ou des femmes qui détenaient vraiment tous les pouvoirs dans des régions. Peut-être, OK, partageons un peu plus les pouvoirs, très bien, mais que les parlementaires soient bien ancrés dans les régions,
dans les provinces.
Le territoire, dans les provinces. Ça, c'est vraiment un plus, je pense.
On les appelait d'ailleurs monsieur ou madame les présidents.
Et la crise des Gilets jaunes, c'est beaucoup ça. Hein. C'est que les députés, ils ont vu passer les trains. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait.
Ça serait populaire de revenir sur
On vient de publier une enquête pour le cercle des élus locaux la semaine dernière, alors qui montre que les choses se dégèlent. On part d'où, Yves ? On part de 2017, de 80% des Français favorables à la fin du cumul des mandats, sur le mode, ça cassera les baronnies et ça permettra aux élus d'être concentrés complètement sur leur mandat. Mais dans ce sondage, on a une majorité de Français qui disent... C'est fin des cumuls des mandats à, comment dire, accélérer la cassure entre champ politique national et local, qui fait qu'il n'y a absolument aucune figure locale qui a émergé nationalement. Peut-être un peu Robert Ménard, mais quand on voit les difficultés de Carole Delga ou d'autres, ou du maire de Cannes, c'est extrêmement compliqué. Mais on n'a qu'une personne sur deux, alors c'est 45-46%, mais on part d'une opinion unanime sur la fin du cumul des mandats qui déclare que mettre fin au cumul des mandats permettrait aux élus de monter à la capitale pour mieux défendre les intérêts de la commune.
Alors,
donc, ça se dégèle.
Frédéric, vous avez une minute pour le coup de cœur, une minute pour le coup de griffe.
Alors, je commence par le coup de griffe. Le coup de griffe, comme tout le monde. Ouais. Ce sont les incidents en marge de la manifestation du 8 mars dernier pour les droits des femmes. Les insultes qu'ont subies les personnes qui défilaient pour rappeler le martyr qu'avaient vécu beaucoup de femmes israéliennes le 7 octobre. Je ne me reviens pas sur les insultes qui ont été dites. Mais je suis sidéré de voir la difficulté, on l'a vu ce week-end, de la France insoumise à mettre des mots sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Une fake news relayée par tous les députés sur lequel c'est la LDJ la Ligue de défense juive qui avait fait provoquer des manifestants pro-palestiniens. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. Et puis, Manuel Bompard, dans une émission dominicale, reconnaît qu'il y a eu des viols le 7 octobre massif, mais il dit « Ah, mais il y a également des viols dans les prisons israéliennes ». On sait là aussi que c'est une fake news, cette difficulté de toujours mettre en équilibre et ne pas reconnaître ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est un coup de griffe sur les incidents le 8 mars.
Et le coup de cœur ?
Le coup de cœur, c'est un peu en lien avec ce qu'on vient de se dire tout à l'heure. J'espère que la participation va être forte aux élections européennes. Alors, c'est plus facile pour mon travail, mais d'une part, c'est un plaidoyer pro novo. Mais la campagne commence plus tôt, les meetings commencent plus tôt, l'intérêt progresse par rapport à 2019. Et puis, déjà en 2019, il y avait eu une progression pour la première fois depuis 1984 de la participation électorale. Il ne faut pas oublier que cette démocratie française où on vote massivement, quelle élection présidentielle, ce n'est pas bon. Il faut absolument qu'à cette élection européenne, les Français votent. Donc c'est moins un coup de cœur qu'un vœu, peut-être pieux.
Voilà. Il ne sera pas pieux, j'imagine. Je vous remercie tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission fort agréable. Où j'espère, et je le sais, que vous avez éclairé les consciences. Vous avez tracé, vous avez mis la lumière sur certains chemins, le chemin des urnes notamment. On va se retrouver la semaine prochaine avec, sans doute en fond de toile, toujours la guerre en Ukraine, toujours les élections européennes et toujours les guéguerres, picrocolines ou pas, à droite et à gauche.